Maintenant, on s'en va à Maria. Je ne sais pas s'il pleut à Maria, s'il fait chaud. Anne-Marie Aubin va tout nous dire ça. Bonjour, Anne-Marie.
Bonjour Hélène, oui, il fait très beau ici, c'est le soleil. Il y a de la pluie chez vous?
Oui, il pleut pas, il y a de l'orage dans l'air, il y a beaucoup d'humidité. Alors, c'est pas l'idéal pour ceux qui déménagent aujourd'hui.
Non, effectivement. Puis j'ai pensé à ce 1er juillet, symbole de déménagement ou de début de vacances, pour faire le choix de mes lectures cette semaine.
Oui, deux livres, vous êtes généreuse, Maison perdue, Maison rêvée et Baignade.
Oui, Maison perdue, Maison rêvée, c'est chez Leméac. C'est écrit par Mélissa Grégoire que j'ai découvert, que je connaissais pas. Mais le titre m'a beaucoup intriguée, moi qui aime les maisons, les vieilles maisons. Alors, elle raconte dans ça un petit peu ce que sont les maisons dans nos vies, en plus d'être du bois, un toit, du béton. C'est quand même des lieux où on vit des émotions, où on vit des choses, où on a envie de rester ou partir ou quitter. Bref, il y a 9 petits textes à l'intérieur du livre, mais qui sont reliés. Puis en fait, ça nous permet de faire des liens avec l'enfance de l'héroïne. Et puis bon, ben, ce qu'elle a vécu, ses souvenirs, comment est-ce qu'elle est sensible au patrimoine bâti, aux ancêtres. Elle est dans la région de Lanaudière, on devine à peu près dans l'enfance. Et puis après, ben, elle va avoir un chalet dans le bas du fleuve, elle va vivre en Estrie, dans l'Assomption. Bref. Sans que ce soit noté, on voit qu'elle est allée à différents endroits et qu'elle a des souvenirs dans tous ces lieux-là, des chalets qu'elle a loués pendant des vacances.
Donc, elle a
Alors,
déménagé à quelques reprises.
oui, et c'est l'histoire, ben, elle louait des chalets, en fait,
Oui.
puis avant d'en avoir un à elle. Alors, au début, ça commence qu'il y a finalement la démolition de la maison de sa grand-mère, qui est une maison ancestrale, mais la grand-mère n'est plus là, puis les enfants n'en veulent plus, ils l'ont laissée à l'abandon, et ça la désole un peu de plus reconnaître ce lieu où elle a vécu beaucoup de choses, et bon, les souvenirs affluent. Et plus tard, on apprend qu'ils vont, elle, Marie, l'héroïne, qui est la narratrice, qui est aussi probablement l'autrice, raconte sa vie avec un écrivain qui s'appelle Antoine, qui a plusieurs années de plus qu'elle. Et ensemble, ben, ils fréquentent des gens qui sont instruits, qui a beaucoup de livres là-dedans, de la musique. C'est des gens qui aiment la nature. Et pendant longtemps, ils ont eu un chalet qu'ils ont habité dans le bas du fleuve. Et là, ben, lui, vieillissant, se dit que c'est beaucoup d'entretien, il devrait peut-être le vendre. Et puis, c'est cette perte-là qui va amener à rêver d'autres maisons, à se souvenir, puis à voir qu'il leur manque quelque chose. Alors, c'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture-là parce que finalement, c'est vrai que ce qu'on vit à un endroit, dans une ville, dans un lieu, dans un décor, est très important. Ce qu'on appelle une chambre à soi, là, c'est quelque chose aussi parce qu'il y a des livres partout dans ce roman-là, dans ce livre-là. Et puis, ben, il y a des pertes. Puis autour, il y a aussi des humains qui meurent, puis des gens qui sont malades. Et finalement, ça amène la narratrice qui se pose beaucoup de questions existentielles à chercher le sens même de son existence et des lieux où elle vit.
Ça va loin, hein?
Oui, c'est un livre qu'on peut pas lire sans réfléchir à notre relation avec l'équilibre affectif qu'on peut avoir face à un lieu. Par exemple, si je retournais où j'ai grandi, je suis certaine que je serais déçue de voir ce que c'est devenu. Puis c'est son cas à elle, parce qu'elle s'aperçoit que tous les petits champs où elle a grandi quand elle était jeune, c'est devenu des espèces de constructions en plastique. Et puis à ce sujet, qui est le patrimoine, qui est quand même très important dans ça, le patrimoine bâti, j'ai trouvé une filiation avec Marie-Hélène Voyer dans son livre qui s'appelle «
L'habitude des ruines ». C'est drôle, je pensais à la même chose.
Exact. Puis là, ben justement, son chapitre qui parle de ça s'appelle « Au-dessus des ruines ». Et là, il est question de son village natal et ça m'a fait beaucoup penser à l'autre texte où elle dénonce finalement ce qu'on peut faire de lait. Puis elle aussi, elle va visiter ses parents qui sont maintenant dans une maison moderne. Et puis elle entend les tondeuses. Et puis là, ben elle voit que tout est tellement froid. C'est beau, c'est propre, c'est neuf, mais ça n'a pas de vie, ça n'a pas d'âme. Puis elle se dit, tu sais, au fond, sa mère, elle trouve qu'elle ne vient pas la voir souvent. Puis elle dit, si elle avait gardé la vieille maison, je serais peut-être venue plus souvent. Mais là, j'ai rien à vivre là. Elle trouve ça très triste.
Donc, mais j'ai rien à vivre là. Juste sa mère qui est là, ça vaut quand même le détour, mettons.
Ah, mais ils n'ont pas une relation facile. Ah. Et puis, sa mère ne la comprend pas non plus. Puis, c'est difficile pour elle. Puis ses souvenirs, puis peut-être que sa mère accepte pas sa vie parce qu'à un moment donné, sa grand-mère fait des remarques parce qu'elle a pas eu d'enfant, puis qu'elle est pas vraiment mariée. On voit là que finalement, il y a dans ces petits...
Il y a de la tension.
Oui, c'est ça. Puis il y a des, comment dirais-je ça, des mentalités qui sont différentes. Alors, elle réfléchit beaucoup sur l'influence que ces lieux ont où nous vivons. Et puis, cette quête-là est très intéressante parce que ça nous amène à réfléchir, nous aussi, sur quelque chose qui est très matériel ou spirituel. Exemple, je cite, « Faut-il donc avoir tout perdu pour prendre conscience de ce que l'on porte en soi? Quel est ce tout qui me manque, qui fait que je me sens toujours un peu à côté de moi-même où que je sois? » Et le livre se termine en disant « Je suis chez moi dans tout ce que je regarde. » Donc, elle va finalement finir par se réconcilier avec tout ça, comprendre que, bon, on vit avec ce qu'on est aujourd'hui. C'est une écriture intime, très près de l'autofiction. C'est nourri de citations aussi. Oh oui, il y a plein de références à des auteurs qu'elle a lus. Et c'est très intéressant de voir comment, finalement, avec l'âge, parce que là, elle a 45 ans, la jeune fille, bien, avec l'âge, on se penche sur le passé, puis on se demande d'où on vient, puis où on va. Quand on est jeune, on n'est pas conscient de tout ça. Et son conjoint, qui est beaucoup plus vieux, lui dit, tu sais, moi, c'est sûr que je vais partir avant toi, puis elle veut pas admettre ça. Donc, bref, un livre que j'ai beaucoup aimé, où on peut lire les chapitres lentement, et puis finalement voir ce que les maisons ont à offrir, même ça peut être un appartement, c'est pas toujours des maisons, des fois c'est des chalets, des fois c'est des jardins.
Des lieux de vie.
Oui, des lieux de vie, vraiment, c'est beau. J'ai trouvé ça magnifique, ce livre-là.
Alors, Maison perdue, Maison rêvée, tout au pluriel, par Mélissa Grégoire, et c'est publié aux éditions Le Méac, et vous avez aussi parlé de L'habitude des ruines, Le sacre de l'oubli et de la laideur au Québec, par Marie-Hélène Voyer. Vous avez fait une sorte de parallèle par rapport à un des chapitres de l'œuvre de Mélissa Grégoire, notamment. Et puis, l'autre livre, il fait beaucoup parler de lui parce qu'il a fait partie du combat national. Il a failli gagner, c'est Baignade, par l'excellente Andréa Michaud.
Oui,
avez-vous eu peur?
La première partie, là, on la lit assis juste sur une fesse sur le coin de la chaise. Ah, ça, c'est pas vrai, il va pas arriver ça, c'est pas vrai. Et c'est un roman qui est quand même assez développé. Là, je vais vous dire combien, il y a 300 pages à peu près. Bon, la première partie à 180 pages, à mon avis, c'est la meilleure. Alors, ça parle de vacances, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Parce que les gens dans l'histoire, c'est Max, Laurence et leur enfant Charlie, s'en vont, c'est le début des vacances, ils vont faire du camping, et puis là, ben, ils prennent un verre, tout va bien, c'est le bonheur. La petite a dit, moi, je m'en vais me baigner, puis elle a à peu près 5 ans, il me semble, puis elle va se baigner nue. Et c'est là que le drame commence, parce qu'il y a quelqu'un sur le camping qui n'accepte pas que l'enfant se baigne nue. Alors, il vient dire que là, franchement, faudrait qu'elle s'habille, qu'elle mette un maillot. Fait que là, bon, ben, elle dit très bien. La maman amène la petite en dedans, vient mettre ton maillot. Ah, c'est mouillé, ça va pas bien. Mais le monsieur veut que tu mettes ton maillot. Puis là, ben, parle, genre avec le papa. Là, ils s'entendent pas. Il a pris un verre. L'engueulade prend. Là, il est en colère. Il dit, bon, ben, on s'en va d'ici. On ferme la boutique. Et puis là, ben, c'est le soir. Puis là, il commence à faire noir. Puis la pluie commence, l'orage. Il dit, non, on s'en va. Puis là, c'est un VR qu'ils ont motorisé. Puis ils prennent pas la bonne sortie. Là, ils s'enlisent dans un chemin de boue qui va les amener en forêt. Et là, je vous dis pas l'horreur des événements qui se succèdent dans une espèce de spirale. Les pires vacances à vie. Alors moi, je me suis dit, personne ne peut vivre des vacances comme ça, donc c'est réconfortant de lire ça, parce qu'on se dit, ça se peut pas, tu ne peux pas arriver tout ça, c'est une espèce de domino. Et puis là, on lit, puis on dit, oh non, c'est pas vrai, il y a ça encore. Et la petite va être traumatisée. En tout cas, il y a des drames que je ne veux pas dire, parce qu'il faut vraiment laisser le plaisir et le suspense, ça c'est très réussi. Il n'y a pas une page qui n'arrive pas à quelque chose. C'est haletant. De la première page jusqu'à la fin à 180 à peu près. Il y a une deuxième partie qui, à mon avis, était peut-être pas nécessaire, très différente.
Ah,
je pense à peu près une dizaine d'années plus tard.
Comme si on était dans une autre histoire?
Non, c'est toujours les mêmes personnages. Mais le temps
passe. Non, mais OK, le temps passe. Mais vous dites que c'est pas nécessaire. Ça apporte rien de neuf.
C'est que j'ai trouvé que ça aurait pu être plus court. C'est pas mauvais, c'est intéressant. Je comprends sa démarche. Elle veut montrer comment une famille survit à tout ce qui vient d'arriver.
Ouais.
On est à la Saint-Jean-Baptiste, la famille se réunit. Puis là, bon, ben, il va arriver des choses que je ne nommerai pas. Le rythme est lent. Il y a des longueurs. Et bon, alors, à mon avis, ça va être resserré. Et ce qui est intéressant, c'est que Sébastien Diaz adapte présentement le roman pour en faire un film.
Oui.
Alors, ça ça risque d'être un très bon film. Ça va nécessiter beaucoup de budget, je pense, pour faire tout ça. Et puis bon, ben, peut-être qu'à ce moment-là, ils vont resserrer forcément. Ils n'ont pas le choix. Là,
mais là, il y a un scénario à écrire à partir du roman. C'est autre chose.
C'est ça. Ils travaillent à ça présentement, semble-t-il. J'ai lu ça récemment dans les journaux. C'est un roman extraordinaire pour quelqu'un qui n'aime pas lire des affaires compliquées. Il va, tu sais, on tombe dans le panneau dès la deuxième page. On dit, ben voyons donc, c'est juste un enfant de 5 ans. Pourquoi qu'on fait un drame avec ça? Mais comme quoi, une petite chose peut finalement désamorcer tout le bonheur que vivait cette famille tranquille dans un camping pour des vacances qui vont virer au cauchemar. Et puis bon, ben elle excelle dans les atmosphères sombres et ça se passe beaucoup dans la forêt. Puis les forêts font souvent partie des univers de
Andrea Michaud.
Oui, j'avais lu, moi, Bondré, qui était finaliste au prix des collégiens il y a plusieurs années, en 2014, c'est ça. Puis elle en a écrit plusieurs des romans, je ne les ai pas tous lus. Je n'ai lu que Bondré et celui-là, mais c'est un excellent roman pour se divertir, pour passer des vacances heureuses.
Se divertir?
On ne peut pas vivre pire que ça, c'est incroyable.
Ah, des fois, la réalité peut dépasser la fiction, mais on ne sait, on se le souhaite pas, là. Vous n'en avez pas trop dit, mais on a quand même peur. Et puis, c'est un peu la deuxième partie là, qui vous a moins interpellé, si je peux dire, happé.
Moi, j'aurais fait moins long. Je trouvais que autant on était essoufflé dans la première partie, mais
c'est deux fou, rythmes.
Là. Oui, là, le rythme change et il y a des choses, je me disais, est-ce utile de mettre ça? Mais c'est peut-être parce que ça donne un choc après avoir lu la première partie d'arriver à un rythme plus lent où la famille doucement s'installe. Mais en même temps, je comprends l'idée de l'auteur. Je pense que c'était vraiment qu'elle voulait montrer comment une famille, après avoir vécu tout ça, demeure fragile.
C'est le choc post-traumatique qui est raconté.
Oui, c'est ça. Les années passent, mais la blessure est toujours là.
Parce qu'il peut y avoir de la lenteur avec cette autrice-là, Andrea Michaud. C'est une littéraire aussi.
Oui, c'est très bien écrit.
Bon, alors, ben merci pour ces deux suggestions lecture-vacances. Et moi, je pars bientôt en vacances, alors il y en a un que je vais sûrement... Ben les deux m'intéressent. Maison perdue, maison rêvée par Mélissa Grégoire aux éditions Le Meillac. Et puis, baignade par André A. Michaud.
C'est important, oui.
OK, c'est important, d'accord.
Oui, parce que la baignade, c'est le thème dans les deux parties. J'en dis pas plus. Okay. Ben, je vous souhaite de très agréables vacances et on se retrouvera plus tard.
Oui, plus tard. Eh bien, vous, je vous souhaite un bel été. Je sais que vous allez faire vos chroniques assez régulièrement, là, en compagnie soit d'Yvan Deslauriers ou de Denis Martin Chabot. Merci, Anne-Marie, puis au plaisir de vous retrouver.
Au revoir.